Radio.
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 Campus.
Radio.
Campus.
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 Orléans.
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 88.3.
88.3.
Radio.
Orléans 88.3.
Campus Orléans.
Radio Campus Orléans.
88.3 FM.
Vous écoutez Radio Campus Orléans.
88.3 FM.
L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Affranchie des contingences imposées par les instruments de musique attachés à des interprètes, la musique électroacoustique se fait quelquefois passer pour une musique encore plus absolue que la musique pure, imaginée par les premiers romantiques, voire une musique métaphysique ou du moins à haute promesse phénoménologique et donc surtout pas programmatique. Pourtant, de Pierre Schaeffer à Pierre-Henry, en passant par Bernard Parmigiani, il semble que toute la première génération de compositeurs électroacoustiques se soit arrêtée sur la figure d'Orphée, tout en cumulant des références poétiques qui tenaient à maintenir un dialogue avec l'Antiquité, la Renaissance et certainement une tradition de pensée humaniste. Au début des années 1970, François Bayle et Bernard Parmigiani se sont lancés dans un cycle électroacoustique à partir de la Divine Comédie de Dante, Parmigiani s'occupant de l'enfer, Bayle du purgatoire pour composer ensemble le paradis. Ce numéro brûlé de métaclassique va creuser l'enfer, la partition de Parmigiani et notamment sa manière de saisir le poème de Dante, mais puisque cela engage le rapport que le compositeur entretenait avec ses sources littéraires, mais aussi scientifiques et surtout philosophiques, nous réunissons dans l'espace musique de la Bibliothèque publique d'information au Centre Pompidou, Claude-Anne Parmigiani, que Bernard Parmigiani appelait sa première oreille, et l'éditeur Maxime Barthélémy, qui s'engage dans la publication papier des œuvres du compositeur. Et puis, un célèbre virus nous prive de la présence d'un troisième invité, Giuliano Milani, spécialiste de Dante, qui a tout de même pu nous laisser quelques mémos vocaux. Pour commencer, un extrait de Violostri, une œuvre de Parmigiani, composé avec Davy Early en 1964. Bonjour Maxime Barthélémy.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut dire que c'est l'opus 1 de Parmigiani? Pas tout à fait.
Alors, en tout cas, c'est ce qu'il a considéré comme étant son premier opus.
Parce qu'il y avait eu Alternance avant, je crois.
Oui, il y a effectivement l'année précédente Alternance, ce qui d'ailleurs permet la rencontre entre Davy Early et Bernard Parmigiani. Et ensuite, effectivement, il a décidé que son opus 1 était Violostri.
Alors sur la partition, en deuxième de couverture et sur le manuscrit de la partition définitive de Violustri, on trouve une citation de Julian Huxley qui dit « La vie est le passage de l'inorganisé à l'organisé, de l'organisé à l'organique, de l'organique au conscient ». Et là, vous trouvez une espèce de première trace de présence du texte dans l'œuvre de Parmigiani. Il n'y a pas de récitant, ce n'est pas dans l'œuvre sonore, mais c'est bien dans son esprit quand il compose.
Oui, bah en tout cas, il a fait le choix de le reporter de son journal à la partition mise au propre. Donc je pense que ça a une importance. Un peu comme on peut parfois ouvrir un livre et trouver une citation qui, avant de rentrer dans le texte, apporte quelque chose. C'est un espace, en tout cas. Et Bernard, alors peut-être qu'on peut aborder la chose comme ça, oui. a pu constituer au fil de sa trajectoire des archives importantes qui étaient son espace de travail intime, qui n'ont jamais vraiment fait l'objet de parution, en fait, avant. Et donc, après la disparition de Bernard, on a pu rentrer en contact avec Claudane et amorcer un travail justement de valorisation de ces archives, de voir ce qu'il était possible d'en faire. Et en plus de pouvoir proposer des publications de ces relevés graphiques, de ces partitions, effectivement, les journaux offrent un éclairage et énormément d'éléments de compréhension sur le projet, puisque c'est vraiment un compositeur qui travaillait avec des projets solides, construits, bâtis et souvent d'ailleurs qui n'étaient pas à 100% prédéterminés avant la composition. C'est-à-dire que le faire a permis de faire maturer les projets et on voit des évolutions très marquées dans les journaux qui sont consignés avec des dates et même parfois ça va jusqu'à des contenus de séances de travail.
Parce qu'il faut rappeler aussi le contexte des années 60 où pour qu'une œuvre électroacoustique puisse recevoir des droits d'auteur de la SACEM, fallait-il fournir à la SACEM un support papier, c'est-à-dire que la SACEM ne se satisfaisait pas d'un enregistrement sonore de ces œuvres-là. Et donc il fallait répondre de la part des compositeurs par un relevé graphique, voire une partition. C'est sur cette ligne de crête que vous situez aussi vos parutions.
Oui. Alors, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles Bernard a tenu à pouvoir mettre au propre sous forme de relevé graphique ou de partition. Il y a peut-être une nuance à apporter entre les deux termes, puisque, à mon sens, une partition est nécessaire pour l'exécution en public d'une œuvre, ce qui est évidemment nécessaire pour une œuvre instrumentale, en l'occurrence avec un instrumentiste. Mais pour une œuvre électroacoustique qui peut elle-même être interprétée, hein, bien sûr, mais fixée sur un support, c'est avant tout le support qui reproduit donc la musique qui est fixée, qui est déterminante. Et donc j'appelle plutôt relevé graphique, la façon dont il a synthétisé graphiquement sa musique sous forme de partition, on peut dire. Voilà, et donc il y avait cette contrainte administrative de la part de la SACEM de devoir déposer un extrait significatif de l'œuvre.
Mais il était quand même plus soigneux que certains autres compositeurs électroacoustiques de sa génération dans cet exercice-là, donc ça veut dire aussi que ça avait une valeur plus qu'administrative.
Bien, alors effectivement, ça allait bien au-delà de la contrainte, parce que... Après le moment où la SACEM a arrêté de contraindre ses compositeurs...
Et maintenant, on peut envoyer qu'une bande.
Voilà. Il a continué à le faire. Et le point de rupture, c'est-à-dire le moment où il a cessé de le faire de façon aussi précise et consciencieuse, c'est quand il est passé à l'informatique. Ce qui montre bien que toute la durée... Parce qu'il a traversé technologiquement plusieurs supports. On peut dire que quand même le cœur de son travail, c'était sur bande magnétique. Et c'est un support qui nécessite une grande exigence en termes de méthode de travail, puisqu'il travaillait sur des magnétophones stéréo. Un support stéréo n'était pas suffisant pour accueillir toute la complexité de son travail, donc il travaillait avec ce qu'on appelle des voies de mixage. ce qui veut dire plusieurs magnétophones stéréo qui, à l'étape ensuite du mixage, étaient lancés en synchronicité et le mixage de l'ensemble recueilli sur un énième magnétophone en mode enregistrement. Et en fait, le conducteur lui servait dans ses étapes de travail, puisque ça lui permettait, comme aujourd'hui un ordinateur le permet, de pouvoir avoir une représentation visuelle, mais à son époque, du coup, bien plus riche, puisque ce n'était pas une forme d'onde.
Et donc, c'était poétisé.
Moi, en tant qu'éditeur, c'est ce qui me passionne, c'est sa main, sa trace, sa manière de voir ses matériaux, de les représenter. Et ça offre une compréhension justement enrichie. C'est-à-dire que de lier l'écoute et la lecture de ces relevés permet un accès à l'œuvre.
Bonjour Claudane Parmigiani.
Bonjour.
Comme je le disais en introduction de l'émission, vous étiez sa première oreille, selon son expression. Pourquoi il ne disait pas la troisième? Parce que lui, il en avait déjà deux, non?
Oui, mes premières oreilles extérieures.
Extérieures, d'accord. Maxime
la
faisait...
première écoute.
J'entends bien. Oui, l'oreille extérieure, oui. Comme on dit, œil extérieur, oui. Au théâtre. Maxime faisait mention de ses journaux de composition. Oui. Il en avait un par œuvre. C'était aussi méthodique que ça.
Ah oui.
Oui.
Bien sûr.
Et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve aussi des sources conceptuelles, c'est-à-dire quelque chose qui le prépare à l'esprit de l'œuvre.
On y trouve, c'est très varié, et effectivement des éléments conceptuels, mais on y trouve aussi la description des opérations techniques qu'il faisait au cours de l'œuvre. Les sons, comment il les fabriquait, tout ce que la réécoute de ces sons, qui étaient des fois très très fréquentes, l'amenait à penser par rapport à la composition. C'est très détaillé quant au processus de composition, mais aussi à l'emploi du matériel, de l'instrument technique qu'il utilise.
Oui, parce que donc vous le publiez Maison Onas, des extraits de ce journal, et on a carrément des crayons de couleur ou des feutres qui lui permettent de distinguer le type d'information qu'il va y mettre.
Oui, alors comme disait Claudane, c'est variable selon l'importance que l'œuvre a eue. Évidemment, ça peut être très succinct, comme ça peut être extrêmement détaillé. Aujourd'hui, on va parler de l'enfer, qui, je pense, en termes d'époque de composition et de méthode de travail, est assez représentatif. Et pour ce titre-là, il y a un journal de composition
très riche.
Enfin voilà, il y a 400 pages quand même, de format variable. Et dans la notice de notre publication, j'en fais un détail. Peut-être que je peux l'évoquer rapidement,
oui.
Maintenant. Comme ça, ça répond à la question de ce que
contient. De la typologie des sources, voilà. Telle qu'il l'a pensée lui-même.
Ouais. C'est ça. Donc, on a des notes préparatoires, donc c'est-à-dire qui se situent avant tout travail sur le support. 37 pages, découpage du texte, puisque, en l'occurrence, il y a évidemment un texte de source, selon différentes versions, 63 pages. Divers schémas de structure avec 4 méthodes de représentation. Des inventaires de matériaux. Bernard travaillait beaucoup avec des listes, c'est-à-dire qu'il préparait ses matériaux et ensuite il les assignait à des parties de l'œuvre.
C'est au moment de l'assignation qu'il ajoute une durée à côté. Donc par exemple, rêve du rêve, 22 secondes, ou bien phénix, 20 secondes.
Alors là, c'est pour les parties en fait.
D'accord.
Mais on pourra en parler plus en détail. En tout cas, ces inventaires de matériaux, pour revenir à la représentation, c'était déjà pour lui une première étape de représenter schématiquement la morphologie en fait, de ces sons, en plus de les nommer, évidemment. Donc, pour l'enfer, il y a 29 pages d'inventaire de matériaux. Les éléments vocaux, 56 pages. Représentation des voix de mixage dont je parlais tout à l'heure, il y a 73 pages. Représentation graphique de l'œuvre achevée, il en a fait 3 versions. Il y a enfin les commentaires d'écoute, puisqu'il était apparemment très ouvert à recevoir des critiques dans le processus de composition. Il y a évidemment.
Donc il y a vos verbatim, alors Claudane, qui se trouve dans le journal, c'est ça?
Il y a des références, et ouais. Il y a aussi le fait que Bernard, à cette époque, était très impliqué dans le groupe de recherche musicale, et qu'eux organisaient, en fait, je pense. Une fois par semaine,
les écoutes.
Voilà, oui. Des réunions où chacune pouvait mettre au centre de l'écoute ses travaux en cours. Et donc, Bernard notait les remarques avec les noms associés aux remarques. Et donc là, il avait récolté 12 pages de commentaires.
De tous les membres du GRM qui avaient bien voulu s'exprimer à la séance d'écoute.
C'est ça. Et pour terminer, il y a des textes sur l'œuvre, puisqu'il était aussi consciencieux sur le fait de pouvoir poser des mots pour des notices de concerts ou de disques. Donc il y a 79 pages. Et toute la partie administrative, là il y a une cinquantaine de pages, c'est-à-dire les contrats, les démarches, les séances de studio, enfin voilà, tout le processus administratif.
On va écouter un premier extrait de L'Enfer qui s'intitule Les Portes, dans lequel il y a la première présence du texte dit par Michel Hermon.
Par moi, l'on bat dans la cité dolente.
Ceux qui sont ici, le ciel les a bannis parce qu'ils ternissaient sa splendeur, et l'enfer les repousse parce que les coupables tireraient quelque gloire de leur présence.
Sur le relevé graphique, à côté du titre « Les portes », Claudane Parmigiani y a écrit « Première contrainte ». Cette notion de contrainte, c'est une espèce de stratégie qu'il s'est donnée pour découper le texte de Dante.
Alors, je vais vous lire ce que lui-même a écrit à ce sujet. Comme il aurait été dérisoire de vouloir contracter l'œuvre, j'ai dû abandonner l'énoncé numérique des cercles. Et j'ai choisi sept moments intitulés « Contrainte » afin d'en souligner ainsi le caractère de fatalité. J'ai enfin, craignant le pléonasme, j'ai extrait de Dante des bribes de texte que j'ai placées en rupture avec la musique afin qu'elles l'éclaboussent de leur éclat solitaire. J'ai pris le parti de ne pas traiter musicalement la voix du comédien en la laissant à vif dénudée d'un dramatisme que revêtent en échange certaines séquences sonores. À quelques exceptions près, j'ai respecté la chronologie de Dante. Par contre, le propos scénographique qui est à l'origine de ces musiques, entreprise en 1971 à la demande du chorégraphe Vittorio Biaggi, m'a incité à écarter des chants où les descriptions réalistes abondent et à modifier sur le plan musical les proportions de certains passages. J'ai ainsi tenté d'exorciser des symboles sonores dont l'énumération me paraissait trop anecdotique à la simple lecture. Je crois qu'il explique très bien pourquoi il a choisi ce découpage et la crainte qu'il avait de tout ce qui était anecdotique et particulièrement développé dans la première partie de la Divine Comédie qu'est l'Enfer.
Mais le paradoxe étant que cette contrainte est en fait une prise de liberté par rapport au nombre de cercles du texte
bien
de Dante.
Entendu.
Giuliano Milani a remarqué qu'en effet, il respecte la chronologie, il va de A et B, mais en faisant des allers-retours, comme s'il mettait en spirale le texte original.
Cette spirale est d'autant plus consciente qu'il y a, et je pense que tu l'as dans tes archives, un graphisme dont il parle en disant que l'enfer, c'est l'envers. Et il y a une... il est peut-être dans la partition éditée.
Éditée par Maison voilà. Ona.
Oui,
c'est donc
ça.
Une espèce de schéma en entonnoir.
Oui, c'est ça.
Ouais, d'accord.
Et effectivement. Et pour lui, cette inversion était très importante, d'où l'impression de spirale, parce qu'en fait, le cône résulte d'une idée de spirale, le cône inversé.
Alors j'ai demandé à Giuliano Milani, est-ce que les morceaux choisis par Parmigiani sont représentatifs de l'ensemble de l'enfer ? Et voici sa réponse.
D'une certaine manière, les morceaux choisis par Parmigiani sont représentatifs de l'ensemble de l'enfer, parce qu'il commence par les débuts de l'histoire, Dante dans la forêt, et il se termine par la fin, c'est-à-dire la sortie de l'enfer de Dante et Virgile. Mais c'est vrai aussi que au début, Parmigiani suit assez fidèlement ce qui se passe, et donc il tire son inspiration des différents chants, des différents chapitres, on pourrait dire, qui se suivent au début de l'enfer. Après, il s'arrête un peu, et il y a une longue partie centrale dans laquelle il n'y a plus rien, sauf quelques petites exceptions, et plutôt le récit est repris à la fin de l'enfer. On va dire que s'il y a une caractéristique de cette partie centrale qui frappe moins Parmigiani ou l'intéresse moins, c'est peut-être une partie où des vices un peu plus politiques, un peu plus sociaux sont décrits, et c'est pas l'élément qui semble avoir attiré le plus d'attention. Ce qui conduit un peu à dire que l'impression générale d'un lecteur de Dante, c'est qu'il ne s'agit pas d'une illustration où la musique se met, pour ainsi dire, au service de l'histoire, de la poésie, mais plutôt d'un travail fait à partir de ce poème, de cette poésie, mais qui vise à être indépendant par rapport à ces poèmes et à, on va dire, à s'en servir dans le plus haut sens terme.
Alors, il y a un mystère dans cette façon de s'en servir, c'est quelle est la traduction de Dante en français qu'il a utilisée. Vous avez longtemps pensé que c'était celle de Pierangelo Fiorentino. Giuliano Milani lui-même n'a pas réussi à soupçonner celle de l'aumônier qui accompagnait l'illustration de Gustave Doré, qu'il a beaucoup consulté, mais ça ne semble pas exactement celle-là non plus.
Et c'est pourtant la seule que
qui est dans sa bibliothèque. Donc ça veut dire qu'il a réécrit.
Je ne sais pas.
Il a adapté, oui.
Adapté, je ne pense pas. Je pense qu'il a dû prendre des phrases d'une autre version. Il a dû mélanger.
Ah.
Quand je pense que c'est ça qu'il a fait.
Et
il
ça,
a
ça dû lui mélanger. Vient de sa pratique du collage qu'il avait quand même beaucoup développé depuis une dizaine d'années.
Je pense que ça n'a rien à voir avec le collage. C'est simplement parce que c'était ce qui l'arrangeait le plus par rapport à un texte. Dont il voulait éviter. La traduction du 19e avait quand même un caractère
très imagé, justement.
Très imagé et dans une langue qui était très datée et ça le gênait beaucoup.
Il n'y avait pas encore la traduction de Jacqueline Risset.
Non. De toute façon, ça aurait été un problème parce qu'il fallait éviter les droits sur les traductions. Ah oui. Il fallait donc trouver une traduction qui soit libre de droits, justement, pour se permettre de faire un découpage selon le propos musical.
Maxime ?
Oui, non, je voulais juste ajouter que comment dire, la place du texte dans l'œuvre musicale... il a aussi cette place a évolué.
C'est la question que j'allais vous poser entre les différentes versions, parce qu'il y en a vraiment plusieurs.
C'est ça, en fait.
Parce que vous parlez d'une version de référence, mais vous mettez des guillemets autour de référence, qui est celle de 1994, qui est donnée à la salle Olivier Messiaen.
Oui, il existe 7 versions.
Et la première, alors, est donc donnée au théâtre Récamier en février 1973.
C'est ça. Alors, il y a tout un historique autour de... On pourrait même parler du triptyque, puisqu'on ne l'a peut-être pas encore évoqué au micro, mais ça s'inscrit dans un triptyque, donc évidemment Enfer, Purgatoire et Paradis. Et, comment dire, il y avait une contrainte qui était que la commande initiale était pour un ballet, en fait. Et sauf que d'un point de vue... justement de la partie danse, ça a pris beaucoup plus de temps que ce qui était prévu, ce qui fait que les compositeurs ont quand même créé l'œuvre, mais dans la version musicale, donc comme ça vient d'être dit, en 73. Donc ça, c'est la version initiale, effectivement. Donc elle durait 65 minutes. Pour la version chorégraphiée, donc, par Vittorio Biaggi, pardon, l'Opéra de Lyon, la création, c'était en 76. À noter quand même que ça diffère déjà sensiblement parce qu'il y avait très peu de voix du narrateur dans cette version et une structure différente parce qu'il y a des besoins différents quand il y a une mise en scène et
donc,
des danseurs.
Ah oui, pour épouser la chorégraphie, il fallait tirer le composé et donc retirer un peu la narration.
C'est ça. Donc en fait, depuis le début, on pourrait dire qu'il y a une version musicale et une version chorégraphiée. Ouais. Et pour revenir à la version musicale, il y a une version raccourcie en 81. 57 minutes 30. Là, le texte est considérablement allégé. Donc ça, on le voit dans les différents scripts, on pourrait dire, du texte, où c'est à moitié raturé, en fait. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont retirées, sans qu'il y ait de nouvelles prises de son. C'est-à-dire que toutes les prises de son datent, avec Michel Hermond, de 71.
Mais ça veut dire que Dante est la variable d'ajustement.
disons que... Je pense qu'il a fait sienne l'œuvre au fil du temps et qu'il a réussi à effectivement s'affranchir du texte. Et pour aller jusqu'à la version donc, effectivement de référence, entre guillemets, qui est la version de 94, pour laquelle il a à nouveau enlevé, mais un peu moins de texte, et il a rajouté de la musique. Il a fait deux inserts.
Et c'est celle qui est disponible au disque, donc.
C'est ça, c'est la version actuelle. Alors, et qui, pardon, pour terminer, c'est cette version-là qui casse un peu la chronologie du récit.
Oui.
Voilà, et qui met en spirale le texte.
Et quand on parle de version de référence, c'était celle choisie par le compositeur. Il y a même eu une version, j'ajoute à ça, une version complètement sans texte, afin d'avoir un acteur qui était toujours Michel Hermond, mais ça aurait pu être un autre,
mais qui rejoue en live,
qui récite le texte en direct.
C'est ça. Oui. Et une version radio.
Il y a eu une version radio.
Avec beaucoup de texte.
Oui.
Ah oui, pour la radio, on rajoute du texte.
C'est ça.
J'ai demandé à Giuliano Milani qu'est-ce qu'il déduit, lui, de sa manière de fragmenter le texte de Dante.
Comme je disais tout à l'heure, je pense que la manière de fragmenter révèle une attitude libre et d'une certaine manière une capacité de tirer profit du texte. Parmigiani parfois est frappé par un élément de l'histoire, par exemple la présence d'une bête au début qui en réalité dans le récit sont trois, mais lui il appelle son fragment la bête. Et il n'est pas trop intéressé à rendre compte des trois bêtes. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est un élément qui lui rend intéressant faire une musique qui rend l'idée d'une bête. Parfois, c'est une idée qui peut être présente que dans un vers ou même une moitié d'un vers. Par exemple, dans l'épisode, si je ne me trompe pas, qui s'appelle le huitième, s'appelle Désir sans expérience, où il y a des voix qui répètent cette idée de désir sans expérience. Il ne s'agit pas d'un lieu de l'enfer où il y a notamment la mise en scène de ça, mais il s'agit d'une phrase de Virgile qui, répondant à une question de Dante, explique qu'une des punitions de l'enfer, et notamment des gens qui occupent les parties les plus de surface, donc si vous voulez les moins graves du cône infernal, sont des gens qui ont comme punition spécifique celle de ne pas pouvoir satisfaire leurs désirs de Dieu. D'autres fois encore, c'est une idée qui le frappe et qui n'est même pas représentée dans l'enfer. Femme des griffes, c'est un tout petit morceau où simplement il tire inspiration du fait qu'il y a des érines, des femmes monstrueuses que, comme d'autres monstres, sont au service de la punition des damnés, qui se déchirent la poitrine. Et donc, c'est seulement ce geste de se déchirer la poitrine qui l'inspire.
Cela ne péchèrent pas. Leur seul défaut fut de vivre avant la parole. Aussi, leur seule peine est de vivre dans le désir sans espérance.
Dans un texte de 94, donc de l'année de cette version de référence, Bernard Parmigiani écrit « Dans l'enfer émerge parfois une telle source sereine, une clairière poétique estompant pour un moment le désir sans espérance qui est le lot de toute âme damnée. » Ça veut dire qu'il éprouve le désir par la musique de s'extraire de là où nous met le texte.
C'est une forme d'exorcisme, certainement, parce qu'il dit dans un texte manuscrit qui n'a jamais diffusé, enfin qui n'a jamais repris dans les textes qu'il a donné au public, qu'en fait l'enfer, c'est son enfer à lui. Et il dit les monstres qui y sont présents sont ceux que nous secrétons et qui nous reviennent aussi intensément que nous voulons les chasser. Et c'est la raison pour laquelle il choisit des fois des moments extrêmement brefs qui n'ont rien à voir avec le parcours historique qu'en donne Dante, qui ne l'a pas intéressé parce qu'il pensait que bon, ça n'intéressait plus maintenant, l'histoire de l'Italie à cette époque n'étant plus connue, et que par contre, ce qui était présent dans l'enfer, c'était une chose éternelle, c'était la conscience très forte jusqu'à l'aliénation d'un désir sans espérance. Et c'est ça qu'il recherche dans le choix qu'il fait de certains éléments, fussent-ils très brefs, dans le texte de Dante.
C'est quelque chose qui me trouble beaucoup, c'est que le texte de Dante commence par la référence au milieu de la vie. Et Bernard Parmigiani écrit cette œuvre à l'âge de 43 ans, qui est exactement le milieu de sa vie, puisqu'il est mort il y a 10 ans, à 86 ans.
Oui, tout à fait.
Et il en avait une espèce de préscience ?
Non, je pense
non,
pas.
De cet écho,
non,
ouais.
Non, pas du tout, je pense pas du tout.
Maxime Barthélémy, vous me faisiez remarquer que les deux extraits que j'ai choisis de l'enfer coïncidaient aux deux extraits qui contredisent ce que Claudane nous disait tout à l'heure, à savoir, il a quand même un peu traité la voix à certains moments.
Oui, mais en fait, c'est toi, David, il me semble, qui... Non
qui disait l'inverse, non?
Ah, peut-être.
Non,
Claudane,
non,
c'était
non,
toi.
J'ai dit qu'il avait fait une version sans texte du
oui,
tout.
Oui, mais au début.
Bon, avec la lecture d'un comédien pour pallier à l'absence de texte, non
ouais. Oui. Je non, mais pour revenir à ce que disait David, effectivement, Bernard a pris le parti de quasiment pas traiter la voix de Michel Hermon. Ce qui n'est pas le cas de François Bell pour son œuvre Purgatoire,
qui traite beaucoup la
voilà,
voix.
Qui traite ouais. beaucoup la voix. Et effectivement, les deux extraits que tu as choisis sont, je crois, les deux exceptions.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire un mot d'une œuvre sans doute la plus célèbre de Parmigiani, qui est le Sonal des aéroports de Paris, qu'il compose en 1971.
C'est une œuvre de commande.
C'est une œuvre de commande, oui.
Absolument. Il en a fait, je crois, une trentaine. Et elle a donc été choisie par les concepteurs de l'aéroport, aussi bien architectes que spécialistes de la communication, etc. etc. Voilà.
C'était l'époque où Pierre-Henri faisait des sons pour les pubs télé, je crois, aussi.
Oui,
pour
mais Bernard en a fait énormément. Ouais. C'était une façon pour lui de gagner de quoi s'acheter le matériel pour constituer un studio personnel qu'il était le seul à posséder à l'époque au GRM. Et à cette époque, c'était un achat qui était très, très onéreux. Mmh. Je pense que pour Pierre-Henri, ça devait être la même chose.
Oui, effectivement. Oui. La situation est assez similaire.
Oui,
c'est vrai, il y a un nombre... justement innombrable oui. de musique d'application, de commandes
musique
plutôt alimentaires
faites voilà. par la scène électroacoustique.
Voilà, mais en fait parce que aussi ce sont ces compositeurs-là qui avaient accès à des sons nouveaux à une époque où l'audiovisuel était en pleine explosion. C'était là qu'on pouvait trouver de l'identité musicale, de l'identité sonore et c'était tout naissant. Et c'est vrai que ce Sonal est en fait remarquable parce qu'il a quand même une longévité incroyable.
Il a duré 35 ans.
Voilà, jusqu'en 2005, ce qui est phénoménal. Et surtout, étant donné la fréquence d'utilisation, puisque c'était l'annonce avant chaque message qui résonnait dans les immenses terminaux de Roissy-Charles de Gaulle.
Et presque 50 ans plus tard, c'est Christian Zanesi qui a dirigé le groupe de recherche musicale qui a composé le Sonal du Passe Navigo.
C'est possible, ça je sais pas.
Du Passe Navigo, oui.
Ah oui.
Dans le groupe de recherche musicale, il a été à la fois preneur de son, assistant de Xenakis, de Ferrari, et il avait un rapport avec Ferrari où il disait par exemple « J'aimais beaucoup la musique de Ferrari que j'écoutais et réécoutais à partir des rares disques vinyles existants car elle piquait ma curiosité. Le personnage aussi m'amusait, son goût pour le pittoresque, pour l'absurde. » Et on a l'impression que c'est quasi systématique quand il a une accroche à une référence musicale ou littéraire, qu'il en saisisse plutôt l'esprit que la lettre.
Oui, je pense qu'il a souvent dit qu'il n'avait jamais subi d'influence.
Bon, oui.
Il n'a pas eu de formation musical au conservatoire. Par contre, il a eu une formation en tant qu'ingénieur du son. Il était très familier des magnétophones, des micros, à l'époque où l'informatique n'existait pas encore. Je crois qu'il a toujours été un peu un électron libre. Et il écoutait néanmoins énormément, comme il le dit, la musique que composaient les autres compositeurs, mais justement pour peut-être se mettre à distance de ça. Je ne sais pas pourquoi. Il avait jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours beaucoup écouté les œuvres des autres, mais il ne s'y réfère jamais.
Et de la même façon, quand il lit les surréalistes, il dit ensuite « Ce n'est pas la lecture des surréalistes qui m'a apporté quelque chose, mais leur attitude devant le monde qui m'a révélé dans tous les sens du terme une vision insolite et surprenante dont je me sentais proche. » Et donc, c'est pareil, il hérite d'un esprit surréaliste qui va intervenir dans ses premiers collages sonores qui sont une espèce d'inspiration des photomontages, mais qui est une inspiration pas directe.
Oui, il faut dire qu'avant de faire de la musique, il a fait... comme amateur, des photomontages qu'on trouve dans son site. Et c'est l'esprit, un peu comme avec Dante, en fait, c'est plus l'esprit que la lettre qui l'intéresse dans les œuvres qu'il inspire ou les rencontres qu'il fait.
On pourrait évoquer une autre œuvre où il y a la présence d'un texte dit, cette fois par Michael Lonsdale, qui s'appelle « L'écho du miroir », qui vous intéresse aussi, Maxime ?
Oui, là c'est intéressant parce que c'est une œuvre beaucoup plus tardive.
1980.
Voilà, donc là, justement, l'intérêt aussi de l'évoquer, c'est que c'est un texte écrit par Bernard. Et l'esprit un petit peu surréaliste intervient, je pense.
Oui, Bernard a écrit un certain nombre de textes et... Il garde un peu la nostalgie de ne pas avoir eu le temps de développer plus l'aspect d'écriture dans sa vie. Il avait au début justement de sa vie composé des chansons, il avait écrit des textes pour des émissions radio et c'est la même chose, quelque chose qui était latent chez lui et qui n'a pas développé parce que la musique l'a entièrement absorbé.
Voici un extrait de L'écho du miroir, donc avec la voix de Michael Lonsdale.
Face à moi, quelques portes laissées ouvertes. Je me pressais d'entrer par l'une d'elles afin d'emprunter le couloir courbe dans lequel, régulièrement, j'entendais le bruit de mes pas. J'étais maintenant décidé à ne plus prêter attention aux portes situées sur chaque côté de ce couloir. Il s'en échappait toutes sortes de voix semblables aux miennes qui paraissaient me demander d'entrer. Le sol et le plafond rigoureusement parallèles cela demeurait sans importance.
Cette diction un petit peu mécanique, c'est un choix de Lonsdale ou de Parmigiani ?
Ni l'un ni l'autre, je dirais que c'est le choix du comédien, parce que c'était
donc
la oui.
Oui.
Mais c'est pas le comédien qui a choisi. Lonsdale, il récitait les textes de cette façon. Et si, en général.
Il ne dit pas Proust comme ça. Hein.
Je ne l'ai pas entendu lire Proust.
C'est magnifique.
Et Bernard, à la fin, regrettait beaucoup. Et,
il regrettait que ce soit si mécanique.
Oui.
Oui, d'accord.
Il le regrettait infiniment et il espérait pouvoir le changer. Puis il s'est aperçu qu'il n'avait plus les voies de mixage au cours de multiples déménagements, comme à chaque fois il déménageait des dizaines, voire des centaines de bandes. Il y a eu des pertes et notamment l'écho du miroir a été de cela et il souhaitait changer l'enregistrement.
Oui, après, je trouve que la typologie, enfin la diction, colle avec le timbre aussi un petit peu artificiel de la voix. Là, on est dans la période numérique de Bernard et début 80, c'est très naissant.
Ah oui, il commence à y avoir l'informatique dessous.
Voilà, il y a beaucoup de traitements avec des artefacts qui sont effectivement typés. Et la voix, ouais, est aussi dans cet esprit-là.
Quelles étaient ses lectures à part Dante ?
Il lisait beaucoup de philosophie depuis toujours. Pratiquement peu de littérature propre, parce que, effectivement, pour lui, ses lectures étaient toujours une source d'inspiration pour ses œuvres et il développait certaines idées qu'il trouvait ou il cherchait chez les auteurs les idées qu'il avait pour pouvoir justement les enrichir. Il a beaucoup lu Bachelard. Y compris la partie scientifique de Bachelard, puisque il y a toute la partie de capture éphémère et de l'instant mobile qui sont directement puisées dans la dialectique de la durée de Bachelard, où il y a beaucoup de phrases qui sont soulignées.
Soit il y a des paragraphes complets qui sont indiqués, ou bien une phrase comme « En vibrant, une chose révèle à la fois une structure temporelle et une structure matérielle
».
Une sorte de prélèvement comme ça.
Oui,
ça rentre en résonance avec ses préoccupations.
Il n'y en a pas beaucoup, hein, tant que ça, des phrases qu'il souligne. Il y en a une autre, c'est « La continuité serait donc le résultat de superpositions temporelles ».
Oui, non, mais c'est pas entièrement souligné. Et celui-là est celui qui est le plus souligné. Il a aussi lu Yankelevitch, dont l'irréversible et la nostalgie ont beaucoup inspiré la série Plein Temps. Une de ses lectures qui a duré vraiment toute sa vie, ça a été Clément Rosset. Il a lu pratiquement toute l'œuvre de Clément Rosset. Et notamment, l'antinature a été l'œuvre dans laquelle il a puisé beaucoup d'éléments d'inspiration pour le De Natura Sonorum.
C'est-à-dire que le De Natura Sonorum, par son titre, fait quand même beaucoup penser à Lucrèce, au De Natura Rerum, mais vous dites qu'en fait, on devrait plutôt penser à Rosset.
Absolument. Il a repris le titre parce que ça lui semblait parfaitement convenir à son propos.
Oui.
Parce que c'était l'étude de la nature du son qu'il voulait développer. Mais Lucrèce, je crois qu'il ne l'avait jamais lu. Il devait savoir assez lointainement quel était le propos. Mais ce n'est pas du tout Lucrèce qui est à l'origine, mais l'antinature de Clément Rosset.
Clément Rosset qu'il n'a pas fréquenté pour autant. Il en était lecteur. Mais...
Non, mais il n'a jamais cherché à fréquenter... Les auteurs des textes philosophiques qu'il...
Parce qu'il n'habitait pas très loin, en soi, ça aurait été possible.
Oui, mais Yankelevitch aussi. C'était en plus de ça des gens qui n'étaient pas du tout inatteignables.
D'accord.
On aurait pu... Il y a des gens qui sont très distants par rapport à leur... à leurs lecteurs, ce qui n'était pas le cas d'Yankelevitch ni de Rosset. Bon,
mais il n'en cherchait pas le contact, les livres suffisaient. Non. Parce que du point de vue du fond, la Divine Comédie et le De Natura Rerum, ça ne raconte vraiment pas la même chose.
Ah non. mais il n'a pas cherché à joindre Dante non plus.
Certes. Non, mais parce que quand on lit l'Enfer de Dante, on comprend bien que si on ne voit pas bien en quoi l'amour divin est l'enjeu majeur de la vie, bah, on est à peu près sûr d'avoir aucune forme de salut. Ma question est, est-ce qu'il partageait l'espèce de manifeste chrétien qu'est la Divine Comédie ?
Non, pas du tout. Non, d'accord. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs que l'enfer, c'est le sien. Ce n'est pas celui de Dante.
Et c'est pour ça qu'il il compose quand même le paradis aussi.
Oui.
Et là, il n'y a pas le texte dans le paradis.
Non, il n'y a pas de texte.
C'est un choix qui a été très spontané de la part. Donc, c'est une œuvre co-composée par François Bell et Bernard Parmigiani.
Oui. Alors, elle est particulière dans le triptyque.
Particulière en quoi ?
Alors, déjà, il n'y a pas de texte, comme on vient de le dire. Elle est plus courte, elle dure une vingtaine de minutes, tandis que les deux autres durent plus d'une heure chacune. Et surtout, c'est une œuvre mixte. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, en fait, même la structure en elle-même est plus complexe parce qu'ils ont appelé ça mobile. C'est un mobile, c'est-à-dire que François et Bernard ont chacun des magnétophones sur lesquels il y a des éléments. C'est-à-dire qu'on n'a pas une continuité du minutage 0 jusqu'à 23. On a des matériaux, un réservoir de matériaux. Il y a quand même une partition, donc c'est structuré. Et il y a à la fois donc, ces éléments qui sont déclenchés. Donc ça veut dire que d'une exécution à l'autre, c'est variable. Et surtout, on a du jeu en direct de synthétiseur. Les deux ayant un synthi AKS. Et voilà, donc une œuvre mixte dans le sens...
Dans le sens où il y a une partie fixée et une partie jouée en live, ce qui n'est pas du tout le cas des deux premières parties.
Exact.
D'accord. Parce que même dans le Purgatoire de François Bell, tout est archi-fixé comme dans l'Enfer.
Complètement, ouais.
D'accord.
Ouais.
Il y a une phrase qui me plaît beaucoup de la dialectique de la durée de Gaston Bachelard qui a souligné Parmigiani. Si l'on arrêtait le flot de l'émotion qui accompagne la mélodie, on se rendrait compte que la mélodie, prise comme simple donnée sensible, cesse de couler. Ça semble une espèce de programme. Il n'y a plus qu'à faire de la musique quand on a lu ça. Ouais.
Pas besoin d'en souligner beaucoup plus.
C'est ça. Et Le Paradis n'a pas encore été publié ?
Voilà, c'est ça. Jusqu'à présent, donc il a, la pièce a déjà été donnée en concert plusieurs fois. En fait, jamais seule, c'est-à-dire que c'était toujours sous forme de triptyque. Et il y a une version studio, en fait, de cette œuvre. C'est-à-dire que dans le processus de publication de la Divine Comédie, moi, j'étais très intrigué parce que je savais qu'il existait un paradis. J'ajoute peut-être juste une petite nuance avant de terminer. C'est que le titre complet de l'œuvre de François Bell, c'est « Purgatoire et paradis terrestre ». Qui est en fait une partie du purgatoire à l'échelle encore humaine.
Donc ça veut dire que dans l'idée de François Bell, ça aurait presque pu être un diptyque.
Non, il y avait quand même déjà le triptyque, mais ouais. Je pense que en fait, à un moment, ils ont voulu laisser tomber le paradis, et c'est à ce moment-là que François Bell a rajouté Paradis terrestre, qui n'était pas en fait présent au moment où il a déclaré l'œuvre à la SACEM. Là où je voulais en venir, c'est qu'ils ont quand même pris la peine de faire une version studio qui en fait ça s'avère être extrêmement propre et j'étais très surpris en fait, qu'on puisse avoir accès à ça d'une aussi bonne qualité. Je m'attendais à ce qu'on ait une captation live un peu rapide et en fait non, il y a vraiment quelque chose de très bien, de très abouti et donc on a envisagé une parution donc pour la première fois en triptyque des trois œuvres.
À l'occasion donc des 10 ans de sa disparition.
Alors oui, le hasard fait que ça tombe comme ça.
Ouais.
Mais donc donc on s'associe avec le GRM qui a une collection de vinyles qui s'appelle Recollection avec le label Migo et aujourd'hui Shelter Press. Donc ça va faire l'objet d'un il y a quatre disques puisque ça fait un triptyque assez long, mais voilà, une publication prochaine.
dans les références que vous avez mobilisées, collectionnées pour l'occasion de cette émission, Claudine Parmigiani, on a cité effectivement Rosset, on a cité Bachelard. Il se trouve qu'il y a, il semblerait, une espèce de thématique qui traverse tout ça, c'est la question du mouvement circulaire et de l'idée d'un temps qui...
Il y a le temps et la répétition, la notion de répétition qui était très très importante et qui est forcément temporelle.
Et là, il y a un lien direct entre sa lecture du mythe de l'éternel retour de Michel Eliade,
oui,
et
absolument,
de sa composition d'une pièce vraiment répétitive qui est pour
qui
en finir avec le
pouvoir d'Orphée. Absolument.
Et ça, c'est consigné dans son journal de composition ?
Non, je ne pense pas que ça soit consigné. Les phrases que vous avez citées, qu'il soulignait dans les livres, il ne les reprenait pas dans son journal.
Mais par contre, il les reprenait dans... Ah oui, mais dans son esprit...
Oui, il les avait présents dans son esprit pour composer. Donc, c'était une espèce de plateforme d'envol à partir de laquelle il...
De préparation conceptuelle.
Absolument. Il partait pour, après, fabriquer des sons, puisqu'il y avait toutes les étapes, fabriquer des sons, les organiser, les composer, etc., etc.
Mais ça, c'était très, très conscient de sa part, parce qu'il dit, voilà, il prend dans Jankélévitch l'idée de ce temps circulaire, et il dit lui-même, après, cela a été pour moi le point de départ d'une réflexion sur le temps à laquelle j'ai donné un contenu musical dans Plein Temps, en 1993.
Absolument. C'était vraiment déterminé. Pour lui, c'était essentiel. Ça a été ses lectures tout au long de sa vie. Il s'est référé à des ouvrages philosophiques dans lesquels il trouvait les idées musicales qu'il voulait développer.
Donc, il n'y avait pas de programme narratif, mais
jamais.
Un programme conceptuel.
Jamais. Sauf, il y a une exception, c'est qu'il a fait un ballet sur Carmen de Mérimée. Et là, effectivement, il a repris le propos, le texte de Mérimée, en reprenant certains épisodes qui étaient plus narratifs, mais là encore, il s'en est beaucoup éloigné.
Merci beaucoup, Claudine Parmigiani. Merci,
merci
beaucoup, Maxime Barthélémy. Merci beaucoup à Giuliano Milani d'avoir répondu aux questions par mémo vocale, faute de pouvoir être présent. Et merci à la Bibliothèque publique d'information d'avoir accueilli l'enregistrement de cette émission Métaclassique. Et puis, en clin d'œil à un précédent numéro de l'émission avec Aurélien Robert, où on cherchait des concomitances entre Lucrèce, la philosophie d'Épicure et la musique, j'ai choisi comme extrait de De Natura Sonorum les accidents harmoniques.
Thank you.